Et j'aurais pu donner un titre plus explicite à cette communication, à l'appelant à Dorian Gray les biotechnologies, puisque finalement, ce que je me propose de faire, c'est d'interroger finalement la pertinence ou ce qu'est véritablement le projet des biotechnologies à l'aune finalement de ce que j'appellerais une double option éthique présente dans le roman du portrait de Dorian Gray. Donc je vais faire référence d'emblée en introduction à une scène importante du roman qui est au chapitre 3, donc pas directement dans les premières pages, mais qui constitue une scène à la fois inaugurale et traumatique, dans la mesure où finalement Dorian Gray va avoir l'occasion d'une révélation de sa propre identité à lui-même par la médiation du portrait, mais pas simplement par le portrait, puisque au fond il ne se voyait pas lui-même dans le portrait au départ, il a fallu en plus le discours de Lord Henry, qui est ce personnage qui lui dit de profiter de la vie tant qu'il peut encore le faire. Donc au fond, cette scène traumatique est celle de la révélation pour le personnage principal, de sa propre finitude. En effet, ce qui est important de remarquer d'abord, c'est le fait que dans les premières pages du roman, Dorian Gray est représenté de façon extrêmement stéréotypée. On nous dit que c'est un personnage extrêmement beau, mais au fond, c'est un personnage qui est sans grande consistance, puisque finalement Lord Henry le premier va insister sur le fait que sa beauté viendrait d'une forme d'insouciance. C'est un personnage qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, et à ce titre-là, finalement, sa beauté tout entière se résout dans son insouciance fondamentale. Donc c'est bel et bien ce discours de Lord Henry qui lui fait prendre conscience du trésor qu'il possède, c'est-à-dire sa beauté et sa jeunesse. Mais paradoxalement, Dorian Gray en prend conscience de quelle manière ? En reconnaissant que finalement ce sont des biens périssables. C'est véritablement en prenant conscience du fait que ce sont là des trésors éphémères que véritablement il va pouvoir apprécier à leur juste mesure ces dons précieux. Donc l'enjeu pour moi serait de montrer de quelle manière, au fond, le personnage de Dorian Gray exemplifie de façon assez évidente le fait qu'au fond, la conscience, c'est toujours la conscience du temps qui passe et donc du coup d'une existence qui s'inscrit dans la possibilité de sa propre disparition. Et que c'est la conscience même de cette finitude qui donne aussi sa valeur à ce à quoi nous donnons finalement de la valeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais partir donc de ce roman qui m'apparaît comme une sorte de théâtre dans lequel finalement à travers ces trois personnages, on a la possibilité de réfléchir de façon éthique sur les différentes options qui nous sont offertes lorsque, comme tout à chacun, nous ferions l'expérience de notre propre finitude et que nous en ferions finalement l'expérience douloureuse. Les deux options qui sont proposées sont d'abord celles de Basil Hallward. Basil Hallward, finalement, est le premier à admirer la beauté de Dorian Gray et à craindre qu'elle puisse disparaître. Donc quelle est la solution qu'il propose ? Celui de la figer dans un portrait, de lui accorder finalement une forme d'éternité par finalement le substitut que va constituer l'œuvre d'art. Donc ce qui moi m'intéresse ici, c'est de voir de quelle manière au fond on pourrait considérer que les biotechnologies s'inscrivent dans cette conception-là, c'est-à-dire l'idée que finalement de proposer comme solution à ce caractère éphémère de l'existence une option qui serait celle de la monumentalité ou de la patrimonisation de l'existence, c'est-à-dire la possibilité au fond par des moyens techniques de permettre à une existence éphémère de jouir d'une certaine forme de durabilité, en passant de manière beaucoup plus technique qu'à travers l'art, à travers des substituts ou des prothèses telles que peuvent le proposer la médecine contemporaine. Or, la question qu'il me semble qu'il faudrait poser, c'est de savoir bien plutôt quel est finalement au fond le ressort de cette peur de la mort qui nous conduit justement à désirer l'immortalité. Et je me proposerais finalement au fond de faire une critique de cette perspective-là, celle de la monumentalité, pour finalement voir de quelle manière c'est le discours de Lord Henry qui est peut-être le plus intéressant, celui qui propose finalement de se consacrer à l'art. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu dans lequel on va pouvoir jouir pleinement de notre existence dans une jouissance qui va être proprement celle de la sensation et celle finalement de l'instant. Donc, indiquer le fait que, justement, le personnage de Dorian Gray, lui, va d'une certaine façon, bien qu'il soit attentif au discours de Lord Henry, céder plutôt à la première de ses versions, à la monumentalité. C'est-à-dire qu'au fond, il troque face à ce portrait dont il est jaloux, justement, d'une éternelle jeunesse. Il va troquer, finalement, son âme pour simplement conserver l'apparence qui est celle d'un corps à tout jamais jeune. Donc, au fond, ce qui est intéressant ici, c'est que Dorian Gray nous montre de quelle manière, en faisant cela, c'est-à-dire finalement en désirant l'immortalité, ce que l'on risque de faire finalement, c'est de dégrader la qualité d'existence humaine qui est la nôtre. Dorian Gray, troquant son âme, va finalement être abandonné à une existence simplement matérielle, d'une réalité biologique, mais qui n'est plus véritablement animée par une âme véritable. Donc Dorian Gray, finalement, au fond, serait réduit à un état de zombie quasiment, d'une certaine façon. Au fond, il se propose de conserver simplement l'éternité d'une réalité corporelle, mais qui ne sera plus animée véritablement d'un principe humain. Donc, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais finalement, pour simplement achever cette introduction, montrer de quelle manière, au fond, il est extrêmement facile de voir de quelle manière les biotechnologies s'inscrivent donc dans ce projet qui est celui finalement d'une possibilité de résister au caractère éphémère de l'existence et qui s'inscrit finalement dans un projet qui n'est pas si récent que ça mais qui est extrêmement ancien puisque finalement on pourrait en voir une des représentations dans l'optimisme médical d'un Descartes qui proposait finalement à travers une certaine représentation du corps mécanique, de s'opposer justement à la mort en proposant finalement un modèle qui est finalement celui de la greffe, c'est-à-dire celui d'une remplaçabilité perpétuelle des parties du corps. Donc j'aimerais opposer donc à cette perspective-là, qui est celle finalement que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans des exemples qu'on a vus aujourd'hui. Je pourrais vous citer Ray Kurzweil, qui est finalement le père du transhumanisme, qui suppose finalement qu'au fond, la conscience pourra s'émanciper de sa réalité corporelle pour exister de façon indéfinie. Donc opposer finalement à cette perspective-là, celle finalement d'une solution que j'appellerais esthétique, qui est finalement l'acceptation de la finitude, voire même finalement l'exaltation de cette fugacité de l'existence qui nous permet finalement de l'apprécier correctement et donc finalement qui trouve une forme d'immortalité plutôt dans l'intensification de cette vie. Donc au fond la question va être celle-ci finalement de savoir si il faudrait effectivement s'affranchir de la condition qui est la nôtre pour finalement aboutir à cette forme d'immortalité ou si au contraire il ne faudrait pas plutôt procéder à une sorte de psychanalyse de ce désir d'éternité pour comprendre quels en sont les réels ressorts et finalement nous affranchir plutôt de cette obsession-là pour pouvoir enfin s'adonner à une existence humaine pleinement vécue. Donc, je commencerai donc par ça, c'est-à-dire étudier ce programme médical d'une vie éternelle qui trouve son origine dans ce que j'appelle la sagesse du cadavre. Au fond, la Renaissance a permis finalement de rendre crédible ce projet-là, finalement d'une immortalité qu'accorderait un travail scientifique, en allant chercher d'abord dans les cadavres un savoir anatomique. Et au fond, c'est bel et bien à partir de ce moment-là que se crée un basculement dans une conception de l'homme par le fait que l'on va substituer à une conception psychosomatique de l'homme, une conception globale, une représentation objectivée du corps et qui va finalement conduire à finalement avoir un corps mis à distance. Donc, je passe rapidement sur le fait qu'un des éléments qui, moi, avait retenu mon attention, c'était un article de 2016 sur Elizabeth Parrish, qui était apparemment une scientifique connue qui avait réussi à être elle-même le patient d'un protocole qu'elle avait mis en place qui lui permettrait finalement de rajeunir par le fait que ce protocole médical rallongeait ses télomères qui sont finalement l'indice du fait du vieillissement. Donc au fond, j'aimerais montrer de quelle manière le projet qui est celui apparemment extrêmement contemporain des biotechnologies ou du transhumanisme trouve en réalité son origine dès la Renaissance dans cette conception finalement d'un homme qui va devenir enfin maître de son destin et artiste de lui-même. Rompant finalement avec l'idée qu'il serait simplement une créature de Dieu, il va être celui qui s'empare finalement de lui-même comme une matière qu'il peut retravailler comme le ferait un artiste. Donc on trouve cette conception dès les textes de Pic de la Mirandole par exemple, dans Sur la dignité humaine, où le philosophe exalte une conception de l'homme qui est celle finalement d'une nature totalement indéfinie, indéterminée, qui en fait à ses yeux un admirable caméléon, d'une nature variée, multiforme, changeante, et donc finalement offert à des possibilités d'opérations diverses qui vont lui permettre finalement de choisir son essence, de la déterminer de façon absolument libre. Or, de façon beaucoup plus concrète, à la Renaissance, cette possibilité offerte à l'homme de se choisir lui-même s'est traduite, me semble-t-il, par deux disciplines importantes, la mécanique et l'anatomie. Pour quelle raison ? Parce que, au fond, ces deux disciplines travaillent ensemble, finalement, dans la volonté de parvenir à une représentation de l'homme qui est comparable à un cadavre que l'on a disséqué ou à une machine dont, justement, finalement, on est capable de démonter les pièces et de les remonter de façon absolument libre. Au fond, ce qu'il s'agirait de montrer ici, c'est de quelle manière il se trouve dès la Renaissance et finalement dans la philosophie proposée par Descartes, une révolution importante qui est celle finalement de la mise en place de ce paradigme vésalien, pourrait-on dire, d'une représentation objectivée du corps qui donne finalement la possibilité pratique d'imaginer que l'on va pouvoir effectivement reconstituer, recréer des formes de vie ou en tout cas pourquoi pas les corriger. Donc, Frankenstein, sur lequel je ne dirai pas plus de mots que ça, puisqu'il a été largement évoqué, en est finalement un des exemples types. Dans la préface, Mary Shelley indique qu'au fond, c'est de la science-fiction certes, mais au fond basé sur l'état actuel de la science. Et que Frankenstein est quasiment finalement une sorte de cartésianisme appliqué, au sens où on imagine qu'à partir du moment où on recompose des éléments de cadavres et que l'on crée un être nouveau, il suffit d'une impulsion électrique pour que finalement cet ensemble simplement mécanique puisse fonctionner de lui-même après ça. Donc, ce qui m'intéresserait pour faire la critique finalement de ce projet-là, c'est d'insister sur le fait qu'au fond, la possibilité offerte à la Renaissance finalement de pouvoir profaner les cadavres, de pouvoir ouvrir le corps et de percer jusqu'à son intimité, a conduit justement l'homme à perdre quelque chose qui relève du mystère de son existence et l'a conduit finalement à avoir à partir de là un rapport à lui-même et aux autres, qui est ce rapport finalement d'un corps qui va être un corps cadavérique ou un corps mécanique. Donc j'insisterai donc rapidement sur le fait que, à partir des travaux de David Le Breton sur l'anatomie, on peut insister sur le fait que l'enjeu même de l'anatomie oblige finalement à cette mise à distance, cette objectivation du corps. Que dans la réalité historique qui a permis finalement l'avènement et la possibilité même de l'anatomie, au fond, c'est intéressant de noter, par exemple, qu'on s'est d'abord tourné vers des corps que l'on appelait des corps négligeables, des corps dont on pouvait effectivement supposer qu'ils n'avaient pas particulièrement de valeur, qui étaient les corps des vagabonds, des criminels, et donc du coup qu'on s'inscrit d'emblée, finalement, dans une conception qui va être celui de manipuler des corps qui n'ont, au fond, pas beaucoup d'importance. D'autre part, David Le Breton insiste, par exemple, dans la formation du médecin sur ce moment qui est extrêmement important pour lui de son premier cours d'anatomie, dans lequel finalement il va devoir se passer chez lui tout un travail de mise à distance et de finalement transformation du régime otologique du corps, c'est pas comme ça que parle Le Breton, pour finalement réussir finalement à ne pas avoir la main qui tremble lorsqu'il va devoir accomplir ce geste absolument sacrilège. Donc comment comprendre cela finalement? Au fond, il s'agirait de critiquer l'optimisme cartésien qui finalement justifie l'ensemble de ces opérations en raison des bienfaits qu'elles vont apporter à l'humanité, en finalement en mettant en rapport les apports qu'elles proposent, mais aussi le coût qu'elles supposent. Et d'insister finalement sur le fait que, au fond, les bienfaits supposés ne valent peut-être pas le prix que l'on a dû payer à cette transformation du rapport que l'on a à notre propre corps. Autrement dit, il s'agirait là d'un geste anthropologique qui vide l'existence humaine de son mystère et ainsi finalement de sa consistance réelle et de son caractère proprement humain. Pour finir, finalement, je donnerai un des exemples les plus frappants pour moi, le fait que, par exemple, dans du progrès de la promotion des savoirs, Francis Bacon, qui, de la même façon que Descartes, fait l'état des lieux de la médecine de son époque, se dit qu'un des moyens pour que cette médecine progresse, c'est de pratiquer l'anatomie, mais aussi sur des corps vivants. C'est-à-dire qu'au fond, le corps mort ne permet pas de rendre compte de toutes les fonctionnalités du corps, donc au fond, il faut aussi le faire sur des corps vivants. Donc au fond, cette réification du corps, qui détermine finalement notre rapport à nous-mêmes et aux autres, va jusqu'à finalement non pas simplement utiliser le cadavre comme un corps négligeable, mais va jusqu'à finalement envisager la possibilité d'employer un corps vivant. Donc à partir de là, le troisième et dernier moment sur lequel je voudrais insister, c'est de voir de quelle manière, au fond, il s'agirait de faire justement ce que j'appellerais cette psychanalyse du désir d'éternité, pour montrer que, au fond, ce coût qui a été celui finalement de ce corps objectivé, c'est l'obsession par laquelle nous cherchons à devenir infaillibles et invulnérables, et par quoi finalement nous négligeons ce qui est la condition même de l'existence humaine, c'est-à-dire sa vulnérabilité fondamentale. Dans un texte extrêmement fort et amusant de Samuel Butler au XIXe siècle, celui-ci écrit dans Darwin parmi les machines, une sorte de scénario selon lequel, au fond, on pourrait très bien imaginer que l'évolution humaine, étant le résultat d'une évolution du stade minéral au végétal à l'animal, se prolonge et culmine dans ce qu'il appellerait finalement une ère du mécanique. Cette ère du mécanique rendrait finalement l'homme absolument obsolète pour une raison fondamentale qui est que, au fond, la machine n'aura plus besoin de nous et que, au fond, par exemple dans le monde du travail, elle s'impose comme étant beaucoup plus performante que l'homme. Donc, au fond, l'existence humaine n'aurait plus de justification. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce texte, c'est qu'il utilise pour décrire ces machines un vocabulaire anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il parle de l'alimentation, de la reproduction des machines, du fait de les soigner et de les réparer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par contraste, en désignant les machines de cette façon, il va dégager ce qui est justement la spécificité de l'existence humaine. Au fond, qu'est-ce qui fait la caractéristique principale des machines ? C'est le fait qu'elles se soustraient à l'ensemble des défauts qui sont ceux de la condition humaine. La machine n'a pas de fragilité, n'a pas de défaillance, n'est pas fatiguée, ne fait pas d'erreur. Donc il y a tout un passage que je ne vous lis pas en entier, mais qui finalement décrit la machine comme étant finalement celle qui n'est pas troublée par ses émotions, fatiguée par la peine de son travail, etc. etc. Donc, au fond, ce paradigme mécanique qui s'est imposé, qui est finalement ce à partir de quoi on devrait penser l'existence humaine et par quoi finalement on peut penser aussi une existence humaine immortelle, est au fond un paradigme effrayant d'inhumanité, puisque au fond il se substitue à ce qui fait réellement la spécificité de l'existence humaine, c'est-à-dire non pas encore une fois en l'occurrence sa performance à elle, mais bien plutôt au contraire sa maladresse, sa gaucherie, sa capacité à se tromper en définitive. J'en trouve un autre écho, par exemple, dans certains textes de William Morris, dans lesquels celui-ci dénonce le fait qu'à l'époque de l'industrialisation, les produits fabriqués en série sont finalement abominables aussi d'inhumanité. Ils ne nous émeuvent pas, ne nous touchent pas, parce qu'on voit à quel point ils ont été créés par des froides machines. Ce sur quoi insiste Morris, c'est de dire, au fond, pour un patron, il est absolument évident que si on a le choix entre des hommes qui vont travailler moins bien et des machines, on va choisir des machines. Et il insiste en disant, au fond, du coup, dans ce cadre de travail-là, les hommes eux-mêmes vont devoir se soumettre à des normes qui sont celles, finalement, de la productivité des machines. Autrement dit, il va falloir que l'homme parvienne à se faire machine, à nier en lui ce qui serait le grain de sable dans la machine de production, c'est-à-dire sa liberté, sa conscience, ses émotions. Donc il y a une sorte de devenir machinique de l'homme qui est, s'il est pensé de cette façon-là. Donc, pour en revenir à Dorian Gray, il me semble que la question qu'il faudrait se poser, justement, c'est de se demander si cette existence immortelle que se donne Dorian Gray est une existence souhaitable. Au fond, dans la suite du roman, ce personnage est un personnage qui va s'isoler des autres, qu'il ne comprenne plus, qui s'étonne du fait qu'il ne vieillisse pas, et qui va à ce point se couper des autres qu'il va aller jusqu'à tuer Basil Hallward, donc finalement aller jusqu'au meurtre dans ce rapport qui nie l'existence de l'autre. Le portrait de Dorian Gray, finalement, serait intéressant pour nous dans la mesure où ce qu'il donne à voir, ce serait finalement cette croyance magique en une forme de toute-puissance et d'immortalité qui ne sert qu'à dissimuler quoi, selon Sarah Kaufman dans La posture de la beauté, une fragilité narcissique extrême. Autrement dit, c'est avant tout l'incapacité qu'aurait Dorian Gray à avoir suffisamment confiance en lui pour aller dans le monde qui finalement l'oblige à finalement demander, exiger une garantie d'existence, une sécurité absolument extrême. C'est donc véritablement cette crainte que quoi que ce soit puisse entamer son infaillibilité supposée qui va le pousser justement à désirer quelque chose de cette existence figée, de cette existence qui finalement dans le portrait, si la gloire de l'artiste va lui assurer finalement une forme d'éternité, reste une existence largement mutilée. Donc au fond, ce qui m'intéresse ici serait finalement de travailler, d'interroger cette notion de vulnérabilité. Dans le texte de Mary Shelley, Frankenstein, le docteur Frankenstein se donne pour objectif de rendre l'homme invulnérable. Et au fond, on pourrait s'interroger sur le fait que finalement, dans ce désir d'immortalité, ce qui serait en jeu serait bel et bien ceci, finalement, ce refus ou cette crainte de la perte insupportable, du refus finalement de la possibilité du deuil et de la volonté finalement de se tenir toujours dans une situation de sécurité. Or, si on travaille justement à essayer d'interroger les raisons de ce désir d'immortalité et du coup à en faire plutôt la psychanalyse plutôt que d'essayer de se demander comment est-ce qu'elle pourrait être mise en œuvre, on découvrira qu'au fond, d'une certaine façon, ce désir d'immortalité relève d'une contradiction, enfin en tout cas d'une volonté de contredire ce qui fait notre existence même. Autrement dit, le fait de trouver une forme d'existence dans laquelle finalement on va nier ce qui constitue une existence temporelle, c'est-à-dire le devenir, l'incertitude, l'imprévisibilité qui détermine notre vie. J'en terminerai donc simplement avec une mention à un texte de Freud qui s'appelle « La passagèreté », dans lequel justement Freud fait référence à un poète qui finalement considérait que face à la caducité de tout ce qui est beau, celui-ci concluait au fait que finalement toute existence était vaine et que toute réalité l'était. Et Freud, de façon extrêmement intéressante, renverse cette idée-là en disant qu'au fond, c'est l'inverse. C'est le fait que finalement les choses sont éphémères qui fait que nous leur accordons de la valeur et que nous leur accordons de valeur que nous souhaiterions finalement qu'elles soient éternelles. Mais si elles l'étaient, peut-être finalement n'auraient-elles plus exactement cette même valeur. Donc, face à ce que j'appellerais l'option de la monumentalité, j'opposerais, pour conclure, celle qui est finalement cette solution du dandy, de Lord Henry, qui insiste à jouir de l'existence. Ce personnage de Lord Henry, il a existé véritablement. C'était Walter Pater, un des professeurs d'Oscar Wilde à Oxford. Et cet auteur a écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle La Renaissance, dont la conclusion a fait scandale à l'époque, puisque c'était une sorte de manifeste hédoniste, dans lequel ce dernier appelait finalement à jouir de l'existence autant que possible. Justement, pas simplement jusqu'à repousser les bornes de l'existence, mais autant que possible. C'est-à-dire, non pas chercher à empêcher la mort, mais au contraire, de parvenir finalement à tirer le maximum de notre vie avec une profonde conscience de notre finitude. Profiter autant que possible du temps qui nous est imparti. Parvenir finalement à déployer la richesse propre à chaque instant de notre vie. Donc, le fait que l'art puisse nous servir non pas simplement comme technique médicale, mais comme lieu finalement d'une exaltation de la sensation, c'est l'autre option que propose cet auteur-là finalement en considérant que l'art, par l'écriture, par la fréquentation des œuvres, me permet de revenir sur des instants qui sont passés à mes yeux totalement inaperçus. Ma vie est faite d'habitudes, d'actes inconscients, et l'art me permet de faire quoi ? De déployer toute l'épaisseur de ces moments de vie qui finalement étaient des moments de vie totalement oubliés et qui me permet finalement d'enrichir mon existence de ce qu'il appelait un ensemble de vies imaginaires. Donc pour conclure, je dirais simplement qu'au fond, il y a deux références qui existent en écho dans l'œuvre de Pater. L'une qui est finalement la référence à Rousseau, finalement, ce Rousseau qui dans l'Émile disait que l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie, autrement dit la nécessité de se tourner plutôt vers une existence qui dans sa fragilité est une existence totalement vécue. Et l'autre référence qui est finalement pour l'auteur de Marius l'Épicurien, chez qui finalement la mort a toujours une dimension de révélation, l'idée qu'au fond, à la manière d'Épicure, il s'agit non pas finalement de jalouser les dieux en raison de leur statut d'immortel, exempt d'une vie temporelle, mais au contraire de s'imaginer que, en tant qu'être humain, nous vivrons comme des dieux, à condition finalement que nous acceptions notre condition de mortel et que nous vivions véritablement comme tels. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous quatre.